Chapitre 12. Comment mon oncle appendit M. Susurrant à un crochet de la cuisine. Voyez comme les fleurs sont merveilleusement fécondes. Elles jettent autour d'elles leurs graines comme une pluie. Elles les abandonnent au vent comme une poussière. Elles les envoient, ainsi que ces aumônes qui montent jusqu'au noir Galta, sur la cime des rocs désolés, entre les vieilles pierres des murailles fêlées, au milieu des ruines qui tombent et pendent, sans s'inquiéter si elles trouveront une pincée de terre qui les féconde, une goutte de pluie qui suce leurs racines, et après un rayon pour les faire croître, un autre rayon pour les peindre. Les brises du printemps qui s'en va emportent les derniers parfums de la prairie. Voilà la terre toute jonchée de feuilles qui se fanent. Mais quand les brises de l'automne passeront, secouant sur la campagne leurs ailes humides, une autre génération de fleurs aura revêtu la terre d'une robe neuve. Leur faible parfum sera le dernier souffle de l'année qui se meurt et qui, en mourant, nous sourit encore. Eh bien, sous tous les autres rapports, les femmes ressemblent à des fleurs. Mais sous celui de la fécondité, elles n'ont aucune ressemblance avec elles. La plupart des femmes comme il faut surtout, et je vous prie, prolétaires, mes amis et mes frères, de croire que c'est seulement pour me conformer à l'usage que je me sers de cette expression, car pour moi, la femme la plus comme il faut est la plus aimable et la plus jolie. Les femmes comme il faut, donc, ne produisent plus ces dames dont sont mères de famille, le moins possible. Elles se font stériles par économie. Quand la femme du greffier a fait son petit greffier, la femme du notaire son petit notaire, elles se croient quittes envers le genre humain, elles abdiquent. Napoléon, qui aimait beaucoup les conscrits, disait que la femme qu'il aimait le plus était celle qui faisait le plus d'enfants. Napoléon en parlait bien à son aise, lui qui avait à donner à ses fils des royaumes au lieu de domaines. Le fait est que les enfants sont fort chers et que cette dépense n'est pas à la portée de tout le monde. Le pauvre seul peut se permettre le luxe d'une nombreuse famille. Savez-vous que les mois de nourrice d'un enfant coûtent seuls presque un cachemire? Puis le poupon grandit vite, arrivent les notes boursouflées du maître de pension et les mémoires du cordonnier et du tailleur. Enfin, le bambin d'aujourd'hui... Demain se fera homme, les moustaches lui poussent, et le voilà bachelier ès-lettres. Alors, vous ne savez plus qu'en faire. Pour vous débarrasser de lui, vous lui achetez une belle profession, mais vous ne tardez pas à vous apercevoir, aux traites qu'on tire sur vous des quatre coins de la ville, que cette profession ne rapporte à votre docteur que des invitations et des cartes de visite. Il faut que vous l'entreteniez jusqu'à 30 ans et au-delà, de gants glacés, de cigares de la Havane et de maîtresses. Vous conviendrez que cela est fort désagréable. Allez, s'il y avait un tour pour les jeunes gens de 20 ans, comme il y en a un, ou plutôt comme il n'y en a plus pour les petits-enfants, je vous assure que l'hospice aurait presse. Mais, dans le siècle de mon oncle Benjamin, les choses allaient tout autrement. C'était l'âge d'or des accoucheurs et des sages-femmes. Les femmes s'abandonnaient sans inquiétude et sans arrière-pensée à leurs instincts. Riches ou pauvres, elles faisaient toutes des enfants, et même celles qui n'avaient pas le droit d'en faire. Mais ces enfants, on savait alors où les mettre. La concurrence, cette ogresse au croc d'acier qui dévore tant de petites gens, n'était pas encore arrivée. Tout le monde trouvait place au beau soleil de la France, et dans chaque profession, on avait ses coudées libres. Des emplois s'offraient d'eux-mêmes, comme le fruit qui pend dans la branche, aux hommes capables de les remplir. Et les sots eux-mêmes trouvaient à se caser, chacun selon la spécialité de sa sottise. La gloire était aussi facile, aussi bonne fille que la fortune. Il fallait 2 fois moins d'esprit qu'à présent pour être un homme de lettres. Et avec une douzaine d'Alexandrins, on était poète. Ce que j'en dis, ce n'est pas que je regrette cette fécondité aveugle de l'Ancien Régime, qui produisait comme une machine sans savoir ce qu'elle faisait. Je me trouve bien assez de voisins comme cela. Non, je voulais simplement vous faire comprendre comment, à l'époque où je parle, ma grand-mère, quoique n'eût pas encore 30 ans, en était déjà à son 7e enfant. Ma grand-mère, donc, en était à son 7e enfant. Mon oncle voulait absolument que sa chère sœur assistât à la noce, et il avait fait consentir M. Minxit à remettre le mariage après les relevailles de ma grand-mère. Le trousseau du nouvel arrivant était tout fait, tout blanc, tout festonné, et de jour en jour, on attendait son entrée dans l'existence. Les 6 autres étaient tous vivants, tous enchantés d'être au monde. Il manquait bien, quelquefois, l'un une paire de sabots, à l'autre une casquette. Tantôt celui-ci était percé au coude et tantôt celui-là au talon, mais le pain quotidien abondait. Tous les dimanches, ils avaient leurs chemises blanches et repassées. Somme toute, ils se portaient à merveille et fleurissaient dans leurs guenilles. Mon père, cependant, qui était l'aîné, était le plus beau et le mieux nippé des 6. Cela tenait peut-être de ce que son oncle Benjamin lui repassait ses vieilles culottes courtes, et que pour en faire à Gaspard des pantalons, il n'y avait presque rien à y changer, et que souvent même on n'y changeait rien du tout. Par la protection du cousin Guillaume, qui était sacristain, il avait été promu à la dignité d'enfant de cœur, et je le dis avec orgueil, il était un des meilleurs enfants de cœur du diocèse. S'il eût persisté dans la carrière que le cousin Guillaume lui avait ouverte, au lieu d'un beau lieutenant de pompiers qu'il est aujourd'hui, il eût fait un curé magnifique. Il est vrai que je dormirais encore dans le néant, comme dit ce bon monsieur de Lamartine, qui dort lui-même quelquefois, mais le sommeil est une excellente chose, et puis vivre pour être rédacteur d'un journal de province et être l'antagonisme du bureau de l'esprit public, cela vaut-il bien la peine de vivre? Quoi qu'il en soit, mon père devait à ses fonctions de lévite l'avantage d'avoir un superbe habit bleu de ciel. Voici comment cette bonne fortune lui était arrivée. La bannière de Saint-Martin, patron de Clamcy, avait été mise à la réforme. Ma grand-mère, avec ce coup d'œil d'aigle que vous lui connaissez, avait découvert que dans cette étoffe bénite, il y avait de quoi faire à son aîné une veste et un pantalon, et elle s'était faite, elle jugeait à vil prix par la fabrique, la bannière révoquée. Le sein était peint au beau milieu, l'artiste avait représenté, au moment où il coupe avec son sabre un pan de son manteau pour en couvrir la nudité d'un mendiant. Mais ce n'était pas là un obstacle sérieux au projet de ma grand-mère. L'étoffe avait été retournée et Saint-Martin avait été mis à l'envers, ce qui du reste était bien égal au bienheureux. L'habit avait été mené à bonne fin par une couturière de la rue des Moulins. Il serait allé à mon oncle tout aussi bien peut-être qu'à mon père, mais ma grand-mère l'avait fait faire de telle sorte qu'après avoir été usé une première fois par l'aîné, il put l'être une seconde fois par le cadet. Mon père se carra d'abord dans son habit bleu de ciel. Je crois même qu'il avait contribué de ses appointements à en payer la façon, mais il ne tarda pas à s'apercevoir qu'une belle parure est souvent un cilice. Benjamin, pour lequel il n'y avait rien de sacré, l'avait surnommé le patron de Clamcy. Ce sobriquet, les enfants l'avaient ramassé, il avait valu à mon père bien des rayons. Plus d'une fois, il lui était arrivé de rentrer à la maison avec un revers de l'habit bleu de ciel dans sa poche. Saint-Martin était devenu son ennemi personnel. Souvent, vous l'eussiez vu au pied de l'autel plongé dans une sombre méditation. Mais à quoi arrivait-il? Au moyen de se débarrasser de son habit. Et un jour, au Dominus Vobiscum du desservant, il répondit, croyant parler à sa mère, « Mais je vous dis que je ne porterai plus votre habit bleu de ciel. » Mon père était dans cette disposition d'esprit, Lorsque le dimanche, après la grand-messe, mon oncle ayant à faire une visite au Val des Rosiers, il proposa de l'accompagner. Gaspard, qui aimait mieux jouer au bouchon sur la promenade que de servir d'aide à mon oncle, répondit qu'il ne le pouvait pas parce qu'il avait un baptême à faire. Cela n'empêche pas, dit Benjamin, un autre le fera à ta place. Oui, mais il faut que j'aille au catéchisme à 1 heure. Mais je croyais que tu avais fait ta première communion. Ben, c'est-à-dire que j'ai été tout près de la faire. C'est vous qui m'en avez empêché en me faisant griser la veille de la cérémonie. Mais pourquoi te grisais-tu? Parce que vous étiez gris vous-même et que vous m'avez menacé de me battre du plat de votre épée si je ne me grisais pas. Bon, j'ai eu tort, dit Benjamin. Mais c'est égal, tu ne risques rien de venir avec moi. J'en ai que pour un moment. Nous serons revenus avant le catéchisme. Bon, comptez là-dessus, répondit Gaspard. Ou un autre n'en aurait que pour 1 heure, vous en avez, vous, pour une demi-journée. Vous vous arrêtez à tous les bouchons. Et monsieur le curé m'a défendu d'aller avec vous, parce que vous me donnez de mauvais exemples. Eh bien, pieux Gaspard, si vous refusez de venir avec moi, je ne vous inviterai pas à ma noce. Et si au contraire vous m'accordez cette faveur, je vous donnerai une pièce de 12 sous. Donnez-la-moi tout de suite, dit Gaspard. Mais pourquoi la veux-tu tout de suite, polisson? Est-ce que tu te défies de ma parole? Non, mais c'est que je ne me soucie pas d'être votre créancier. J'ai entendu dire dans la ville que vous ne payez personne et qu'on ne peut pas vous faire saisir parce que votre mobilier ne vaut pas 30 sous. Bien parlé, Gaspard, dit mon oncle. Tiens, voilà 15 sous, et va prévenir ma chère sœur que je t'emmène. Ma grand-mère s'avança jusque sur le seuil de la porte pour recommander à Gaspard d'avoir bien soin de son habit, car, disait-elle, il fallait qu'il lui servît pour la noce de son oncle. Vous moquez-vous? Dit Benjamin. Est-il besoin de recommander sa bannière à un enfant de cœur français? Mon oncle, dit Gaspard, avant de vous mettre en route, je vous préviens d'une chose. C'est que si vous m'appelez encore porte-bannière, oiseau bleu ou patron de Clamecy, je me sauve avec vos 15 sous et je retourne jouer au bouchon. À l'entrée du hameau, mon oncle rencontra Monsieur Susurrant, épicier, tout petit, tout menu, mais fait comme la poudre de charbon et de salpêtre. Monsieur Susurrant est une espèce de métairie au Val des Rosiers. Il s'en revenait à Clamecy, portant sous son bras un Toulon qu'il espérait bien faire entrer en fraude, et au bout de sa canne une paire de chapons que Madame Susurrant attendait pour les mettre à la broche. Monsieur Susurrant connaissait mon oncle et il l'estimait, car Benjamin achetait chez lui le sucre dont il édulcorait ses drogues et la poudre qu'il mettait dans ses cheveux. Monsieur Susurrant lui proposa donc de venir à la ferme se rafraîchir. Mon oncle, pour lequel la soif était un état normal, accepta sans cérémonie. L'épicier et son client s'étaient établis au coin du feu, chacun sur un escabeau. Ils avaient mis le Toulon entre eux deux, mais ils ne le laissaient pas aigrir à sa place, et quand il n'était pas dans les bras de l'un, il était aux lèvres de l'autre. L'appétit vient aussi bien en buvant qu'en mangeant. Hein? Si nous mangions les poulets, dit Monsieur Susurrant. En effet, répondit mon oncle, cela vous épargnera la peine de les remporter. Je ne conçois pas comment vous avez pu vous charger de cette corvée. Et à quelle sauce les mangerons-nous? Ben, la plus tôt faite, dit Benjamin. Et voici un excellent feu pour les faire rôtir. Oui, dit Monsieur Susurrant, mais il y a ici une batterie de cuisine que tout juste pour faire une soupe à l'oignon. Nous n'avons pas de broche. Benjamin, comme tous les grands hommes, n'était jamais pris au dépourvu par les circonstances. Il sera pas dit, répondit-il, que 2 hommes d'esprit comme nous n'aient pu manger une volaille rôtie faute de broche. Si vous m'envoyez deux embrocherons de poulet avec mon épée, et Gaspard que voilà à la tournera par la garde. Vous n'auriez jamais pensé à cet expédient, vous, ami lecteur. Mais aussi mon oncle avait assez d'imagination pour faire 10 romanciers de notre époque. Gaspard, qui ne mangeait pas souvent de poulet, se mit joyeusement à la besogne. Au bout d'une heure, les poulets étaient rôtis à point. On retourna un cuvier à lessive et on le traîna auprès du feu. Le couvert fut dressé dessus et, sans sortir de leur place, les convives se trouvèrent à table. Les verres manquaient, mais le Toulon ne chômait pas pour cela. Malgré les difficultés de toute espèce que présentait l'opération, les poulets furent bientôt expédiés. Depuis longtemps, les infortunés volailles n'étaient plus qu'une carcasse dénudée, et cependant les deux amis buvaient toujours. Monsieur Susurrant, qui n'était, ainsi que nous l'avons dit, qu'un tout petit homme dont l'estomac et le cerveau se touchaient presque, était ivre autant qu'on peut l'être. Mais Benjamin, le grand Benjamin, avait conservé la meilleure partie de sa raison et prenait pitié de son adversaire. Quant à Gaspard, auquel on avait passé quelquefois le Toulon, il alla un peu au-delà des limites de la tempérance. Le respect filial ne me permet pas de me servir d'une autre expression. Telle était la situation morale des convives lorsqu'ils quittèrent le cuvier. Il était alors 4 heures et ils se disposaient à se mettre en route. Monsieur Susurrant, qui se souvenait très bien qu'il devait apporter des poulets à sa femme, les cherchait pour les remettre au bout de sa canne. Il demanda à mon oncle s'il ne les avait point vus. « Vos poulets ?» dit Benjamin. « Mais plaisantez-vous, vous venez de les manger. »« Oui, vieux fou, » ajouta Gaspard, « vous les avez mangés. Ils étaient embrochés à l'épée de mon oncle et c'est moi qui ai tourné la broche. »« Mais cela n'est pas vrai !» s'écria Monsieur Susurrant. « Car si j'avais mangé mes poulets, j'aurais plus faim. » « Je me sens à l'appétit à dévorer un loup. »« Ben, dis pas le contraire, » répondit mon oncle. « Mais toujours est-il que vous venez de manger vos poulets. »« Tenez, si vous en doutez, en voilà les deux carcasses. »« Vous pouvez les mettre au bout de votre canne, si cela vous convient. »« Mais t'en as menti, Benjamin. »« Je reconnais point là les carcasses de mes poulets. »« C'est toi qui me les as pris et tu vas me les rendre. » « Eh bien, soit, dit mon oncle, envoyez-les chercher demain à la maison et je vous les rendrai. »« Mais tu vas me les rendre de suite, » dit Monsieur Susurrant, s'élevant sur la pointe des pieds pour mettre le poing sous la gorge de mon oncle. « Ah, ça, papa Susurrant, » dit Benjamin, « si vous plaisantez, je vous préviens que c'est pousser trop loin la plaisanterie et... » « Non, mais je ne plaisante pas, » fit Monsieur Susurrant, se plaçant devant la porte. « Vous ne sentirez pas d'ici, ni toi ni ton neveu, que vous ne m'ayez rendu mes poulets. »« Mon oncle, » dit Gaspard, « voulez-vous que je passe la jambe à ce vieil imbécile ?»« Inutile, Gaspard, inutile, mon ami, » dit Benjamin. « Tu es un homme d'église, toi, il ne te convient pas d'intervenir dans une querelle. »« Ben ça, » ajouta-t-il, « Une fois, deux fois, monsieur Susurrant, voulez-vous nous laisser sortir ?»« Mais quand vous m'aurez rendu mes poulets, » répondit monsieur Susurrant, faisant demi-tour à gauche et présentant le bout de sa canne à mon oncle, comme si c'eût été une baïonnette. Benjamin abaissa la canne de sa main, et prenant le petit homme par le milieu du corps, il l'accrocha par la ceinture de sa culotte à un morceau de fer qui était au-dessus de la porte, et auquel on suspendait la batterie de cuisine. Susurrant, assimilé à un poêlon, se démenait comme un scarabée attaché par une épingle à une tapisserie. Il hurlait et gesticulait, criant tantôt au feu, tantôt à l'assassin. Mon oncle avisa un almanach de Liège qui était sur la cheminée. « Tenez, dit-il, monsieur Susurrant, l'étude a écrit Cicéro est une consolation dans toutes les situations de la vie. Amusez-vous à étudier jusqu'à ce qu'on soit venu vous dépendre. Car pour moi, je n'ai pas le temps de faire cette conversation avec vous et j'ai l'honneur de vous souhaiter le bonsoir. À 20 pas de là, mon oncle rencontra le fermier qui accourait et qui lui demanda pourquoi son maître criait au feu et à l'assassin. Bon, c'est probablement que la maison brûle et qu'on assassine votre maître, répondit tranquillement mon oncle. Et sifflant Gaspard, qui était resté en arrière, il continua son chemin. Le temps s'était radouci, le ciel, auparavant resplendissant, était devenu d'un blanc mat et sale, comme un plafond de gypse qui n'est pas encore sec. Il tombait une petite pluie fine, dense, acérée, qui ruisselait en gouttelettes le long des rameaux dépouillés et faisait pleurer les arbres et les buissons. Le chapeau de mon oncle s'imbiba comme une éponge de cette pluie, et bientôt ses deux cornes devinrent deux gouttières qui lui versaient une eau noire sur les épaules. Benjamin, inquiet pour son habit, le retourna et, se ressouvenant de la recommandation de sa sœur, il ordonna à Gaspard d'en faire autant. Celui-ci, sans penser à Saint-Martin, se conforma à l'injonction de mon oncle. À quelque distance de là, Benjamin et Gaspard rencontrèrent une troupe de paysans qui revenaient des vêpres. À la vue du saint, qui se trouvait sur l'habit de Gaspard, la tête en bas et son cheval les quatre fers en l'air, comme s'il fût tombé du ciel, les rustres poussèrent d'abord de grands éclats de rire, et bientôt ils en vinrent aux huées. Vous connaissez assez mon oncle pour croire qu'il ne se laissa pas impunément bafouer par cette canaille. Il tira son épée, Gaspard de son côté s'arma de pierre, et emporté par son ardeur, il s'élança à l'avant-garde. Mon oncle s'aperçut alors que Saint-Martin avait tous les torts dans cette affaire. Il fut pris d'une telle envie de rire que, pour ne point tomber, il fut obligé de s'appuyer sur son épée. Gaspard, s'écria-t-il d'une voix étouffée, patron de clepsy, ton sac est à l'envers, le casque de ton sac qui va tomber. Gaspard, comprenant qu'il était l'objet de toute cette risée, ne put supporter cette humiliation. Il ôta son habit, le jeta à terre et le foula aux pieds. Quand mon oncle eut achevé de rire, il voulut le forcer de le ramasser et à le remettre. Mais Gaspard se sauva à travers les champs et ne reparut plus. Benjamin releva piteusement l'habit et le mit au bout de son épée. Sur ces entrefaites arriva Monsieur Dussurand. Il était un peu dégrisé et il se ressouvenait très distinctement qu'il avait mangé ses poulets. Mais il avait perdu son tricorne. Benjamin, que les vivacités du petit homme réjouissaient beaucoup et qui voulait, comme nous dirions nous autres professeurs, gens de bas lieu et de mauvais ton, le faire monter à l'échelle, lui soutint qu'il l'avait mangé. Mais la force musculaire de Benjamin en imposait tellement à M. Susurrant qu'il refusa tout net de se fâcher. Il poussa même l'esprit de contrariété jusqu'à faire des excuses à mon oncle. Benjamin, M. Susurrant s'en revinrent ensemble à Clamecy. Vers le milieu du faubourg, ils rencontrèrent l'avocat Page. Ah, où vas-tu ainsi? Dit celui-ci à mon oncle. Mais parbleu, tu t'en doutes bien, je vais dîner chez ma chère sœur. Ah, non, non, c'est pas du tout cela, fit Page. Tu t'en vas dîner avec moi à l'hôtel du Dauphin. Et si j'acceptais, à quelles circonstances devrais-je donc cet avantage? Bon, je vais t'expliquer cela en deux mots. C'est un riche marchand de bois de Paris auquel j'ai gagné une affaire importante et qui m'a invité à dîner avec son procureur, qu'il ne connaît pas. Nous sommes dans le carnaval, j'ai décidé que ce serait toi qui serais son procureur. J'allais au-devant de toi pour t'en prévenir. C'est une aventure digne de nous, Benjamin. J'ai pas sans doute trop présumé de ton génie en espérant que tu prendras un rôle. C'est en effet, dit Benjamin, une partie de masque fort bien conçue. Mais je ne sais, ajouta-t-il en riant, si l'honneur et la délicatesse me permettent de faire le personnage de procureur. Mais à table, dit Page, le plus honnête homme est celui qui vide le plus consciencieusement son verre. Oui, mais si ton marchand de bois me parle de son affaire, je répondrai pour toi. Mais si demain il lui prend la fantaisie de rendre visite à son procureur, c'est chez toi que je le conduirai. Oh, tout cela, c'est très bien, mais j'ai pas, j'ose du moins m'en flatter, l'effigie d'un procureur. Mais tu la prendras. Tu as bien déjà su te faire passer pour le juif errant. Mais mon habit rouge, bon, notre homme est un badaud de Paris. Nous lui ferons croire que tels sont en province les insignes des procureurs. Et mon épée, bon, s'il la remarque, tu lui diras que c'est avec cela que tu tailles tes plumes. Mais quel est donc ton procureur à ton marchand de bois? Bon, c'est Dulciter. Aurais-tu l'inhumanité de me laisser dîner avec Dulciter? Bon, je sais bien que Dulciter n'est pas amusant, mais s'il sait que j'ai dîné pour lui, il m'attaquera en restitution. Bon, je plaiderai pour toi. Alors viens, je suis sûr que le dîner est servi. Mais à propos, notre amphitryon m'a recommandé d'amener avec moi le premier clerc de Dulciter. Où diable vais-je pêcher un clerc de Dulciter? Monsieur Benjamin se mit à éclater d'un rire fou. « Oh !» me s'écria-t-il en frappant entre ses mains. « J'ai ton affaire, tiens » ajouta-t-il en mettant sa main sur l'épaule de M. Susurrant. « Voilà ton clerc !»« Fis donc, dit Page, un épicier !»« Et qu'est-ce que cela fait ?»« Il sent le gruyère !»« Non, t'es pas gourmet, Page, il sent la chandelle !»« Mais il a 60 ans !» Ben, nous le présenterons comme le doyen de la basoche. Vous êtes des drôles et des polissons, dit M. Susurrant en revenant à son caractère impétueux. Je ne suis pas un bandit, moi, un coureur de cabaret. Non, interrompit mon oncle, il s'enivre seul dans sa cave. C'est possible, M. Rattery, mais je ne m'enivre pas toujours aux dépens des autres et je ne veux pas prendre part à vos flibusteries. « Ben, il faut pourtant, dit mon oncle, que vous y preniez part ce soir. Sinon, je dis partout, je vous ai accroché. »« Et où l'as-tu accroché ?» fit Page. « Ben, imagine-toi, dit Benjamin. »« Oh, monsieur Rattery, s'écria Susurrant, mettant un doigt sur sa bouche. « Eh bien, alors, consentez-vous à venir avec nous ?»« Mais considérez que ma femme m'attend, on me croira mort, assassiné, on me cherchera sur la route du Val-des-Rosiers. » Eh bien, tant mieux, on trouvera peut-être votre tricorne. Monsieur Rattery, bon monsieur Rattery, fit Susurrant en joignant les mains. Allons donc, dit mon oncle, ne faites pas l'enfant. Vous me devez une réparation et moi je vous dois un dîner. D'un seul coup, nous nous acquitterons ensemble. Mais souffrez au moins que j'aille prévenir ma femme. Non pas, dit Benjamin, se plaçant entre lui et Page. « Oh, je connais Madame Susurrant pour l'avoir vue à son comptoir. Vous enfermerez chez vous à double tour et je ne veux pas que vous vous échappiez. Je ne vous donnerai pas pour 10 pistoles. »« Et mon Toulon, dit Susurrant, qu'en vais-je faire à présent que je suis clerc de procureur ?»« C'est vrai, dit Benjamin, vous ne pouvez pas vous présenter à notre client avec un Toulon. » Ils étaient alors au milieu du pont de Beuvron. Mon oncle prit le Toulon des mains de Susurrant et le jeta à la rivière. « Oh, coquin de Rattery ! Scélérat de Rattery ! » s'écria Susurrant. « Ah, tu paieras mon Toulon ! Il m'a coûté 6 livres à moi, mais toi, tu sauras ce qu'il te coûtera. »« Monsieur Susurrant, » dit Benjamin, pendant une pause majestueuse, imitant le sage qui disait « Omnia me cum porto !» c'est-à-dire, tout ce qui me gêne, je le jette à la mer rivière. Tenez, voilà au bout de cette épée un habit magnifique, l'habit des dimanches de mon neveu, un habit qui pourrait figurer dans un musée et qui a coûté de façon seulement 30 fois autant que votre misérable Toulon. Eh bien, moi, je le sacrifie, sans le moindre regret. Jetez-le par-dessus le pont et nous serons quittes. Comme M. Susuron n'en voulait rien faire, Benjamin lança la bille par-dessus le pont, et prenant le bras de Page et celui de Susuron, « Maintenant, dit-il, marchons, on peut lever le rideau, nous sommes prêts à entrer en scène. » Mais l'homme propose et Dieu dispose. En montant l'escalier de vieille Rome, ils se trouvèrent face à face avec Madame Susuron. Celle-ci, ne voyant pas revenir son mari, allait au-devant de lui avec une lanterne. Lorsqu'elle le vit entre mon oncle et l'avocat Page, qui avaient tous deux une réputation suspecte, son inquiétude fit place à la colère. « Enfin, monsieur, vous voilà !» s'écria-t-elle. « Oh, c'est vraiment heureux. J'ai cru que vous n'arriveriez pas ce soir. Vous menez là une jolie vie et vous donnez un bel exemple à votre fils. » Puis, parcourant son mari d'un coup d'œil rapide, elle s'aperçut combien il était incomplet. « Et vos poulets, monsieur, et ton chapeau misérable, et ton Toulon ivrogne, qu'en as-tu fait ?»« Madame, répondit gravement Benjamin, les poulets, nous les avons mangés. Oh, pour le tricorne, il a eu le malheur de le perdre en route. »«
Comment ? Le monstre a perdu son tricorne, un tricorne tout frais retapé ?»
« Oui, madame, il l'a perdu, et vous êtes bien heureuse, dans la position où il était, qui n'est pas aussi perdu sa perruque. Quant au Toulon, on le lui a saisi à l'octroi, et la régie a déclaré procès-verbal, comme Page ne pouvait s'empêcher de rire.
« Ah, je vois ce que c'est, » dit madame Susuron. « C'est vous qui avez débauché mon mari, et par-dessus le marché, vous nous plaisantez. » « Vous feriez bien mieux de vous occuper de vos malades et de payer vos dettes, monsieur Rattray. »«
Est-ce que je vous dois quelque chose, madame ?» répondit fièrement mon oncle.
« Oui, ma bonne amie, » poursuivit Susuron, se sentant fort de la protection de sa femme. « Oui, c'est lui qui m'a débauché. Il m'a mangé mes poulets avec son neveu. Ils m'ont pris mon tricorne et ils m'ont jeté mon Toulon dans la rivière. » Il voulait encore, l'infâme qu'il est, me forcer à aller dîner avec lui au dauphin et à faire à mon âge le personnage d'un clerc de procureur.
Mais allez, indigne homme, je m'en vais de ce pas chez M. Dulcitaire, le prévenir que vous voulez dîner à sa place et à celle de son clerc.
Vous voyez, madame, fit mon oncle,
que votre mari est ivre et qu'il ne sait ce qu'il dit. Oh, si vous m'en croyez, vous le ferez coucher aussitôt que vous serez de retour à la maison, et vous lui ferez prendre 2 heures en 2 heures une décoction de camomille et de fleurs de tilleul. En le soutenant, j'ai eu l'occasion de lui toucher le pouls, et je vous assure qu'il n'est pas bien du tout.
Oh, scélérat, oh coquin, oh révolutionnaire, mais tu oses dire à ma femme que je suis malade d'avoir trop bu, tandis que c'est toi qui es ivre. Attends, je m'en vais de suite chez Dulcitaire, et tu auras tout à l'heure de mes nouvelles.
Vous devez vous apercevoir, madame, dit Page avec le plus grand sang-froid du monde, que cet homme bat la campagne. Vous manqueriez à tous vos devoirs d'épouse si vous ne faisiez prendre à votre mari de la camomille et de la fleur de tilleul, ainsi que vient de le proscrire M. Rattray, qui est assurément le médecin le plus habile du bailliage et qui répond aux insultes de ce fou en lui sauvant la vie. Susuron allait recommencer ses imprécations.
« Allons, lui dit sa femme, je vois que ces messieurs ont raison. Vous êtes ivre à ne pouvoir plus parler. Suivez-moi de suite ou je ferme la porte en rentrant et vous irez coucher où vous voudrez. »
« C'est cela, » dirent ensemble Page et mon oncle. Et ils riaient encore lorsqu'ils arrivèrent à la porte du dauphin. La première personne qu'ils rencontrèrent dans la cour fut M. Minxit, qui allait monter à cheval pour retourner à Convol. « Parbleu, dit mon oncle, prenant la bride du cheval, vous partirez pas ce soir, M. Minxit. Vous allez souper avec nous, nous avons perdu un convive. Nous avons en valé bien 30 comme lui, vous. Oh, puisque cela te fait plaisir, Benjamin. Garçon, ramenez mon cheval à l'écurie. » Et dites qu'on me prépare un lit.
Chapitre 13.
comment mon oncle passa la nuit en prière pour l'heureuse délivrance de sa sœur. Mon temps est précieux, cher lecteur, et je suppose que le vôtre ne l'est pas moins. Je ne m'amuserai donc pas à vous décrire ce mémorable souper. Vous connaissez assez les convives pour vous faire une idée de la manière dont ils soupèrent. Mon oncle sortit à minuit de l'hôtel du Dauphin, avançant de 3 pas et reculant de 2, comme certains pèlerins d'autrefois, qui faisaient vœu de se rendre avec cette allure à Jérusalem. En rentrant, il aperçut de la lumière dans la chambre de Machecourt, et supposant que celui-ci griffonnait quelque exploit, il entra avec l'intention de lui souhaiter le bonsoir. Ma grand-mère était alors en mal d'enfant. La sage-femme, tout effrayée de l'apparition de mon oncle, qu'on n'attendait pas à cette heure, vint le prévenir officiellement de l'événement qui allait avoir lieu. Benjamin se rappela, à travers les brouillards qui obscurcissaient son cerveau, que sa sœur, la première année de son mariage, avait eu une couche laborieuse qui avait mis la vie en danger, et aussitôt le voilà qui se fond en 2 gouttières de larmes. « Hélas !» s'écriait-il d'une voix réveillée toute la rue des Moulins. « Ma chère sœur va mourir, hélas, elle va !»« Madame Lalande !» s'écria ma grand-mère du fond de son lit. « Mettez-moi ce chien d'ivrogne à la porte !»« Retirez-vous, monsieur Rattray, » dit Madame Lalande. « Il n'y a pas le moindre danger. L'enfant se présente par les épaules et dans 1 heure, votre sœur sera délivrée. » Mais Benjamin criait toujours « Hélas, elle va mourir, ma chère sœur !» Machecourt, voyant que la harangue de la sage-femme ne produisait pas son effet, crut devoir intervenir à son tour. « Oui, Benjamin, mon ami, mon bon frère, l'enfant se présente par les épaules. Fais-moi le plaisir d'aller te coucher, je t'en supplie. » Ainsi parla notre grand-père. « Et toi, Machecourt, mon ami, mon bon frère, lui répondit mon oncle, je t'en supplie, fais-moi le plaisir d'aller. » Ma grand-mère, comprenant qu'elle ne pouvait compter sur un acte de rigueur de Machecourt à Benjamin, se décida à mettre elle-même celui-ci à la porte. Mon oncle se laissa pousser dehors avec la docilité d'un mouton. Son parti fut bientôt pris. Il se décida à aller coucher avec Page, qui ronflait comme un soufflet de forge, sur une des tables du Dauphin. Mais en passant sur la place de l'église, l'idée lui vint de prier Dieu pour l'heureuse délivrance de sa chère sœur. Or, le temps s'était remis à la gelée comme de plus belle, et il faisait un froid de 5 à 6 degrés. Nonobstant cela, Benjamin s'agenouilla sur les marches du portail, joignit les mains, comme il avait vu pratiquer quelquefois à sa chère sœur, et se mit à marmotter quelques bribes de prière. Comme il entamait son second ave, le sommeil le prit, et il se mit à ronfler, à l'instar de son ami Page. Le lendemain matin, à 5 heures, lorsque le sacristain vint sonner l'Angélus, il aperçut quelque chose d'agenouillé qui avait comme une forme humaine. Il s'imagina d'abord dans sa simplicité que c'était un saint qui était sorti de sa niche pour faire quelque exercice de pénitence, et il s'apprêtait à le faire entrer dans l'église, mais, s'étant approché davantage de la lueur de sa lanterne, il reconnut mon oncle, qui avait un pouce de verglas sur le dos et à l'extrémité du nez un filet de glace d'une demi-aune. « Oh là, oh, monsieur Rattray !» s'écria-t-il dans l'oreille de Benjamin. Comme celui-ci ne répondait pas, il alla tranquillement sonner son Angélus, et quand il eut achevé et parachevé, il revint à M. Rattray. Au cas qu'il ne fût pas mort, il le chargea comme un sac sur ses épaules et l'alla porter à sa sœur. Ma grand-mère était délivrée depuis 2 heures. Les voisines qui passaient la nuit auprès d'elle reportèrent leurs soins sur Benjamin. Elles le placèrent sur un matelas devant le foyer, l'enveloppèrent de serviettes chaudes, de couvertures chaudes, et lui mirent au pied une brique chaude, et dans l'excès de leurs ailes, elles l'auraient volontiers mis au four. Mon oncle se dégela peu à peu, Sa queue, qui était aussi raide que son épée, commença à pleurer sur le traversin. Ses articulations se détendirent, l'exercice de la parole lui revint, et le premier usage qu'il en fut, fut de demander du vin chaud. On lui en fit vivement une chaudronnée. Quand il en eut bu la moitié, il fut pris d'une telle sueur qu'on crut qu'il s'allait liquéfier. Il avala le reste, se rendormit, et à 8 heures du matin, il se portait le mieux du monde. Si monsieur le curé eût dressé procès-verbal de ces faits, mon oncle eût été infailliblement canonisé. On l'eût probablement donné pour patron au cabaretier. Sans le flatter, il eût fait avec sa queue et son habit rouge une magnifique enseigne d'auberge. Une semaine et plus s'était écoulée depuis l'heureux accouchement de ma grand-mère, et déjà elle songeait à ses relevailles. Cette espèce de quarantaine que lui imposaient les canons de l'Église avait de graves inconvénients pour elle en particulier et pour toute la famille en général. D'abord, lorsque quelque événement un peu saillant, quelque bon scandale par exemple, ridait la surface tranquille du quartier, elle ne pouvait aller en disserter chez son prochain de la rue des Moulins, ce qui était pour elle une cruelle privation. Ensuite, elle était obligée d'envoyer Gaspard, enveloppé d'un tablier de cuisine, au marché, à la boucherie. Or, où Gaspard perdait l'argent du pot-au-feu au bouchon, où il rapportait du collet pour de la cuisse, ou bien encore, quand on envoyait quérir un chou pour mettre dans la marmite, la soupe était trempée, que Gaspard n'était pas encore de retour. Benjamin riait, Machecourt enrageait, et ma grand-mère fouettait Gaspard. « Mais pourquoi aussi, lui dit un jour mon grand-père, irrité d'être obligé, par suite de l'absence de Gaspard, de manger une tête de veau sans ciboule, pourquoi ne fais-tu pas la besogne toi-même ?»« Pourquoi ?» répartit ma grand-mère. « Parce que je puis aller à la messe sans payer Madame Lalande. »« Le diable aussi, chère sœur, dit Benjamin, n'attendez-vous pas pour accoucher que vous eussiez de l'argent ?» « Ne demande donc plutôt à ton imbécile de beau-frère pourquoi depuis un mois il m'a pas apporté un pauvre écu de 6 livres. »« Ainsi donc, dit Benjamin, si vous étiez 6 mois sans recevoir d'argent, 6 mois vous resteriez enfermé dans votre maison, comme dans un lazaret. »« Oui, répliqua ma grand-mère, parce que si je sortais avant d'être allé à la messe, le curé parlerait de moi en chaire et qu'on me montrerait au doigt dans les rues. » « Dans ce cas, sommettez donc, monsieur le curé, de vous envoyer sa femme de charge pour tenir votre ménage. Car Dieu est trop juste pour exiger que Machecourt mange de la tête de veau sans ciboule, parce que vous lui avez fait un 7e enfant. » Heureusement, l'écu de 6 livres, si impatiemment attendu, arriva, accompagné de quelques autres, et ma grand-mère put aller à la messe. En rentrant à la maison avec madame Lalande, elle trouva mon oncle étendu dans le fauteuil de cuir de Machecourt, les talons appuyés sur les chenets, ayant devant lui une écuelle pleine de vin chaud. Car il faut vous dire que, depuis sa convalescence, Benjamin, reconnaissant envers le vin chaud qui lui avait sauvé la vie, en prenait tous les matins une ration qui aurait suffi à 2 officiers de marine. Il disait, pour justifier cet extra monstre, que sa température était encore au-dessous de 0. « Benjamin, lui dit ma grand-mère, j'ai un service à te demander. »« Un service, répondit Benjamin, et que puis-je faire, chère sœur, pour vous être agréable ?»« Mais tu devrais l'avoir deviné, Benjamin. Il faut que tu sois parrain de mon dernier. » Benjamin, qui n'avait rien deviné du tout, et qu'au contraire cette proposition prenait à l'improviste, secoua la tête et fit un gros « Mais !»« Comment ?» dit ma grand-mère, lui jetant un regard plein d'étincelles. « Est-ce que tu me refuserais cela par hasard ?»« Oh non pas, ma chère sœur, bien au contraire, mais... »« Mais quoi ? Tu commences à m'impatienter avec tes mais. »« C'est que voyez-vous, j'ai jamais été parrain, moi. Je ne saurais comment m'y prendre pour remplir mes fonctions. » « Oh, belle difficulté, on te mettra au courant. Je prierai le cousin Guillaumeau de te donner quelques leçons. Oh, je ne doute ni des talents ni du zèle du cousin Guillaumeau, mais s'il faut que je prenne des leçons de farinologie, je crains que cette étude n'aille pas à mon genre d'intelligence. Vous feriez peut-être mieux de prendre un parrain tout instruit. Gaspard, par exemple, qui est enfant de cœur, vous conviendrait parfaitement. Alors donc, monsieur Ratery, dit madame Lalande, il faut que vous acceptiez l'invitation de votre sœur. C'est un devoir de famille dont vous ne pouvez pas vous exempter.
Tu vois ce que c'est, madame Lalande, dit Benjamin. Quoique je ne sois pas riche, j'ai la réputation de bien faire les choses. Et vous aimeriez autant avoir affaire à moi qu'à Gaspard, n'est-ce pas?
Fi donc, Benjamin, fi donc, monsieur Ratery, s'exclamèrent ma grand-mère et madame Lalande.
Maintenant, ma chère sœur, poursuivit Benjamin, à vous parler franchement, je ne me soucie pas d'être parrain. Oh, je veux bien me conduire avec mon neveu, comme si je l'avais tenu sur les fonds de baptême. J'écouterai avec satisfaction le compliment qu'il m'adressera à tous les ans le jour de ma fête. Et fût-il de mi-orato, je m'engage à le trouver charmant. Je lui permettrai de m'embrasser le premier jour de chaque année, et je lui donnerai pour ses étrennes un polichinelle à ressort, ou une paire de culottes, selon que vous l'aimerez mieux. Je serais même flatté que vous le nommiez Benjamin, mais allez me planter comme un grand imbécile devant les fonts baptismaux, avec un cierge à la main, ma foi, non, chère sœur. Oh, ne jugez pas cela de moi. Ma dignité d'homme s'y oppose. J'aurais peur que Diarcos me rit au nez. Et d'ailleurs, comment puis-je affirmer, moi, que ce petit braillard renonce à Satan et à ses œuvres? Qu'est-ce qui prouve qu'il renonce aux œuvres de Satan? Si la responsabilité du parrain n'est qu'une frime, comme le pensent quelques-uns, à quoi bon un parrain? À quoi bon une marraine? À quoi bon deux cautions au lieu d'une? Et pourquoi faire endosser ma signature par un autre? Et si, au contraire, cette responsabilité est sérieuse, pourquoi en encourage les conséquences? Notre âme étant ce que nous avons de plus précieux, n'est-ce pas être fou que de la mettre en gage pour celle d'un autre? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui vous presse donc tant de faire baptiser votre poupon? Est-ce une terrine de foie gras ou un jambon de Mayence qui se gâterait s'il était pas salé de suite? Attendez qu'il ait 25 ans. Au moins, il pourra répondre lui-même. Et alors, s'il faut une caution, je saurai ce que j'aurai à faire. Jusqu'à 18 ans, votre fils ne pourra prendre un enrôlement dans l'armée. Jusqu'à 25 ans, il pourra se marier sans votre consentement et celui de Machecour. Et vous voulez qu'à 9 jours, il ait assez de discernement pour se choisir une religion? Allons donc, vous voyez bien vous-même que cela n'est pas raisonnable.
Oh, ma chère dame, s'écria la sage-femme, épouvantée de la logique hétérodoxe de mon oncle, votre frère est un damné. Gardez-vous bien de le donner pour parrain à votre enfant, cela lui porterait malheur.
Madame Lalande, dit Benjamin d'un ton sévère, un cours d'accouchement n'est pas un cours de logique. J'irai l'acheter de ma part à discuter avec vous. Me contenterai seulement de vous demander si Saint-Jean baptisait dans le Jourdain, moyennant un sesterce et un cornet de dattes sèches des néophytes apportés de Jérusalem sur les bras de leur nourrice.
Ma foi, dit madame Lalande, embarrassée de l'objection, j'aime mieux le croire que d'y aller voir.
Comment, madame, vous aimez mieux le croire que d'y aller voir? Est-ce là le langage d'une sage femme instruite de sa religion? Eh bien, puisque vous le prenez sur ce ton, je me ferai l'honneur de vous poser ce dilemme.
Non, laisse-nous donc tranquille avec tes dilemmes, interrompit ma grand-mère. Est-ce que madame Lalande sait ce que c'est qu'un dilemme? Comment, madame? Fit la sage femme, piquée de l'observation de ma grand-mère. Non, je ne sais pas ce que c'est qu'un dilemme. L'épouse d'un chirurgien ne peut pas savoir ce que c'est qu'un dilemme. Non, continuez, monsieur Ratry, je vous écoute.
C'est fort inutile, répliqua sèchement ma grand-mère.
J'ai décidé que Benjamin serait parrain, il le sera. Il n'y a pas ce dilemme au monde qui puisse l'en exempter. Mais j'en appelle Machecour, s'écria Benjamin. Mais Machecour t'a condamné d'avance. Il est allé ce matin à Corvol inviter Mademoiselle Mirtzit à être la commère. Ainsi donc, s'écria Bonon, on dispose de moi sans mon consentement. On n'a même pas l'honnêteté de me prévenir. Mais me prend-on pour un homme empaillé, pour un gargamel de pain d'épices? La belle figure que vont faire mes 5 pieds 6 pouces à côté des 5 pieds 3 pouces de Mademoiselle Minxit, qui aura l'air avec sa taille plate et calibrée d'un mât de cocaille couronné de rubans. Savez-vous que l'idée d'aller à l'église côte à côte avec elle me tourmente depuis 6 mois, et que j'ai failli, en vue de cette corvée, renoncer à l'avantage de devenir son mari? Voyez-vous, Madame Lalande, dit ma grand-mère, ce Benjamin, comme il est facétieux, il aime Mademoiselle Minxit avec passion, et cependant il faut qu'il se raille d'elle. Fit la sage-femme. Benjamin, qui n'avait pas songé à Madame Lalande, s'aperçut qu'il avait fait un lapsus lingué pour échapper aux reproches de sa sœur. Il se hâta de déclarer qu'il consentait à tout ce qu'on voudrait exiger de lui, et détala avant que la sage-femme fût partie. Le baptême devait avoir lieu le dimanche suivant. Ma grand-mère s'était mise en frais pour cette cérémonie. Elle avait autorisé Machecour à inviter à un dîner solennel tous ses amis et ceux de mon oncle. Pour Benjamin, il était en mesure de faire face aux dépenses qu'exige le rôle de parrain magnifique. Il venait de recevoir du gouvernement une gratification de 100 francs pour le zèle qu'il avait mis à propager l'inoculation dans le pays et à réhabiliter la pomme de terre attaquée à la fois par les agronomes et les médecins.